Chapitre 15. Des jours suivants, il ne me reste en mémoire que cette phrase murmurée par le docteur Marlowe à l'oreille de sa femme. On peut brûler de toutes sortes de fièvres. En effet, je brûlais, mais je n'aurais su dire si c'était de chagrin ou de culpabilité. J'avais d'étranges visions. Entre autres, à chaque fois que Mrs. Marlowe, qui veillait patiemment près de mon lit, s'assoupissait et laissait tomber sa tête sur sa poitrine, elle, qui était pourtant rondelette, prenait soudain l'aspect de ma mère, amaigrie, décharnée même. Je croyais voir son cou se briser, sa bouche se noircir, ses yeux vides sortir de leurs orbites. Je me tournais, me tortillais, et je sentais alors une main fraîche se poser sur mon front, et Mrs. Marlowe réapparaissait, rassurante, avec ses joues rondes et son expression paisible. Mes cauchemars finirent par s'espacer, et les cernes que j'avais sous les yeux par disparaître. « À la bonne heure !» s'écria un jour d'un ton guilleret le docteur Marlowe, qui venait voir chaque matin si j'allais mieux. Le panda aux yeux cernés de noir est retourné en Chine, laissant à sa place le jeune Daniel. Puis il me demanda « Est-ce qu'un peu de visite te ferait plaisir ?» Je lui dis que oui, et Marie et Cécilia furent autorisées à entrer dans ma chambre pour m'apporter les plateaux de soupe et de desserts crémeux que la cuisinière confectionnait pour m'inciter à manger. Mais pas de Sophie. « Pourquoi ne vient-elle pas me voir ?» demandai-je un matin à Cécilia. « Est-elle fâchée contre moi ou malade ?»« Non, non !» rit Cécilia. « Mais maman dit que dans ton état, la dernière chose dont tu aies besoin, c'est d'entendre Sophie jacasser. » Pourtant, moi, je ne voyais rien de mieux pour distraire un malade que le joyeux bavardage de Sophie. Mais je compris soudain que Mrs. Marlowe voulait en fait, me protéger de toute autre chose, les commérages sur la mort de ma mère. Les comptes rendus sur les circonstances dans lesquelles on l'avait trouvée et dépendue, les ragots sur l'enquête et sa conclusion, les rumeurs sur l'enterrement expéditif que j'avais manqué. Mais j'avais déjà passé trop de temps au lit dans ma courte vie pour avoir envie d'y rester plus longtemps. Aussi, le lendemain matin, je me levai et m'habillai pour descendre. Sophie était pelotonnée dans son fauteuil, dans un fauteuil du petit salon. Quand elle me vit, elle laissa tomber son livre. « Daniel, te voilà de retour !» En effet, c'était comme si j'étais partie à des centaines de kilomètres. Je m'assis à côté d'elle sur le tabouret brodé. « Alors, lui lançai-je, dis-moi, ô toi, puits de sagesse et intarissable source d'information, quoi de neuf dans cette maison ?» Son visage s'assombrit un instant, lorsqu'elle se rappela tout ce dont on lui avait interdit de me parler. Mais elle énuméra ensuite, en comptant sur ses doigts, les autres événements. « La fille adoptive de Kathleen a une fille, qui s'appelle aussi Kathleen. » Le fils du vieux Mr. Tanner a repris la mer, alors que l'année dernière, à son retour, il avait juré que plus jamais il ne naviguerait. Ah oui, et Marie a le droit d'arrêter les leçons de piano, mais pas moi, alors que je joue bien plus mal qu'elle. Elle fit une grimace et réfléchit encore. Papa a décrété que si on nous servait encore une seule fois des betteraves cette semaine, il ferait ses valises et nous quitterait pour toujours, et... Ses yeux brillaient à présent. Comment ai-je pu oublier ? Si tu étais descendu hier, tu aurais rencontré le visiteur qui a fait rougir Cécilia. Une fameuse nouvelle, en effet. Un visiteur pour Cécilia? Et il venait lui proposer une promenade avec lui? Elle battit des mains. Non, non, pas du tout. Il est venu peindre la maison de poupée. Peindre la maison de poupée? Je me retournai brusquement. Quelqu'un avait osé porter atteinte au seul souvenir qui me restait de ma vie d'avant? Pourtant non, la maison de poupée était là. Pareille à elle-même, installée comme avant devant la baie vitrée. Sophie éclata de rire. « Mais non, pas la peindre, la peindre » « C'est-à-dire comme un portrait ?»« Exactement, un portrait de ta maison de poupée. »« Mais pourquoi faire ?» Elle haussa les épaules. « Je n'en sais rien. C'est papa qui l'a décidé, pour te faire plaisir peut-être. » Elle riait de plus belle. À mon avis, il était loin d'imaginer que le peintre allait faire la cour à Cécilia. Et elle continua son bavardage, se moquant des boucles blondes et de la barbichette de l'artiste peintre, parlant de plus en plus fort, jusqu'à ce que sa mère, l'ayant entendue depuis le couloir, passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. « Assez, Sophie, sois gentille avec ta sœur. Plus un mot là-dessus. » Alors seulement Mrs. Marlowe vit que c'était moi, assis dans le fauteuil. « Daniel, te voilà enfin revenu parmi nous. » Et ainsi nous reprîmes nos vieilles habitudes, si confortables et rassurantes pour moi. Mes leçons recommencèrent progressivement. Mais l'après-midi, nous étions libres d'aller nous promener où bon nous semblait. Cécilia et Marie préféraient se rendre en ville, flâner autour du kiosque avec leurs amis. Mais Sophie était assez jeune encore pour avoir envie de m'accompagner dans d'autres directions, vers les champs et les bois qui me ravissaient toujours. Tant j'avais été privée de toutes ces créatures qui chantaient, bruissaient, crissaient dans l'herbe tout près de mes pieds, ou se tenaient simplement debout sur leurs sabots, contemplant placidement le paysage par-delà les murets de pierre. Un beau matin, je vis Sophie dans le vestibule, devant le miroir, en train de s'énerver après les rubans de son chapeau. « Ah, ça suffit, imbécile de ruban! Vous allez vous démêler, oui, que je puisse faire ma rosette ?» Mrs. Marlowe arriva juste à ce moment-là. Elle posa une main sur l'épaule de sa benjamine. Je pensais qu'elle voulait lui rappeler discrètement qu'une fille bien élevée ne doit pas insulter les rubans de son chapeau. En fait, elle la prit à part dans le salon. La porte claqua derrière elle, mais j'entendis Sophie bougonner. « Pourquoi je ne peux pas y aller ? Si Marie et Cécilia partent ensemble, moi il faudra que j'aille me promener toute seule, ou que je reste ici. » Il eut sans doute une autre réponse muette, car j'entendis alors « Oh là là, pauvre Daniel !» La porte s'ouvrit brusquement. Sophie était là, qui me regardait, horrifiée. Puis elle arracha son chapeau, le jeta par terre, passa devant moi, les yeux pleins de larmes, et gravit l'escalier sans un mot. Chapitre 16. Comme vous l'imaginez, je n'étais pas très rassurée lorsque j'empruntais peu après un des petits chemins tortueux qui menaient hors de la ville avec le docteur Marlowe. « Quel beau temps » s'exclama-t-il. Paralysée par l'appréhension, je répondis d'un ton aigre. « Sans doute. Pourtant, Sophie a très peur que pour moi le ciel ne soit pas son nuage. « Ah » soupira-t-il. « Décidément, ma petite Sophie ne remportera jamais le premier prix de discrétion. J'espérais pouvoir aller un peu plus loin avant de te dire que je t'emmène voir la tombe de ta mère. » La tombe de ma mère? Je l'avais imaginé mille fois. Pourtant, j'étais stupéfait. Mais ce n'est pas de l'autre côté? De l'autre côté? Mais pourquoi veux-tu que... Alors il comprit. Ah, tu croyais qu'on l'avait enterrée à l'asile? Dieu du ciel, Mrs. Marlowe et moi-même n'aurions pas supporté l'idée que tu doives te rendre dans un endroit aussi lugubre pour te recueillir sur la tombe de quelqu'un que tu aimais tant. À mes yeux, c'était sans importance. Le pire, c'est la perte de la personne qu'on aime, pas l'emplacement de sa tombe. C'est ce que tu penses aujourd'hui parce que tu es jeune et que tu en as lourd sur le cœur. Mais un jour, tu comprendras. Comme je n'avais rien à répondre, nous continuâmes à cheminer en silence. Ayant quitté la route, il me fit franchir un échalier, puis descendre un petit sentier bordé d'églantiers qui ne laissait qu'un étroit passage. Nous parvîmes enfin devant une clôture. Les vaches nous regardèrent avec curiosité, sauter la barrière et nous diriger vers la petite chapelle de pierre qui se dressait à l'autre bout du champ. « C'est ici ?» Tandis que nous nous approchions, je voyais dépasser par-dessus le mur de la chapelle des croix et un ange de pierre inclinant la tête. « Elle est enterrée là ?» Il secoua la tête. « Non, sa tombe n'est pas dans le cimetière, Daniel. Elle est plus proche que cela. » Je regardais autour de moi, stupéfait. Les vaches me fixaient. Le docteur Marlowe pointa l'index vers quelque chose que je n'avais pas remarqué, à deux pas de nous, un rectangle d'herbe plus courte et plus fraîche que le reste du pré. Et à la tête de ce rectangle, adossé au mur du cimetière, se dressait une pierre tombale profondément enterrée. Liliana Cunningham a une mère affectueuse. Et tout en bas, une phrase que je pris pour une citation de la Bible. Jusqu'à ce que le jour se lève pour chasser les ombres. Il m'était souvent arrivé de penser, et ce sentiment me revenait à présent que tout au long de sa triste vie, ma mère avait été poursuivie par une obscure menace. Le docteur Marlowe l'avait-il senti, lui aussi, pour faire graver cette épitaphe sur la tombe? J'éclatai en sanglots et lui lançai hors de moi. « Pourquoi n'est-elle pas enterrée dans le cimetière comme tout le monde ?» J'aurais tellement aimé qu'elle le soit. Ce sera le cas un jour, quand il y aura un peu plus de charité dans ce monde. Et comme ta mère a transgressé les sacro-saintes lois de l'Église en mettant fin à ses jours, personne ne peut l'enterrer en terre sacrée. « Mais avez-vous demandé, au moins ?»« Je n'ai pas demandé, Daniel. J'ai supplié. »« Et personne n'a cédé ?»« Personne. Les règles sont formelles, et tous les hommes d'église des environs se croient tenus de les suivre à la lettre. » Il lui peint un petit sourire en coin. « Mais la Bible dit aussi qu'il ne faut jamais désespérer. Alors je dois t'avouer que je suis allé voir tous les paysans que je connais, dont les terrains jouxtent une chapelle ou une église, et le ciel a dû m'entendre car j'en ai trouvé un qui s'est souvenu d'une bonté que je lui avais faite. » Une bonté? Il haussa les épaules. Rien de plus que mon travail, note bien. Je suis venu voir ta fille au milieu de la nuit à un moment où elle allait très mal.
Vous lui avez sauvé la vie?
Rien d'aussi mirifique. Je lui ai sauvé la vue, peut-être,
Mais toujours est-il qu'il m'a cédé un minuscule bout de terrain, ce qui m'a permis de poser la pierre tombale de ta mère de ce côté du mur. Le docteur posa sur mon épaule une main consolatrice et reprit. Et si la chapelle se trouve vraiment sur une terre sacrée, alors sois certain que la paix qui en émane traversera le mur de pierre jusqu'à ta mère. Je balayai les alentours du regard. Il est vrai que l'endroit était paisible avec ses aulnes qui se balançaient dans le vent et ses vaches qui broutaient imperturbablement. Je levai la tête. Les oiseaux sillonnaient le ciel ou voguaient très haut des nuages d'été. Je compris que toute l'année la tombe de ma mère serait éclairée par le soleil du matin, qu'elle serait protégée des vents mauvais. Loin des routes et des sentiers, elle serait en paix. Je me jetai au cou du docteur Marlowe pour le remercier. Je m'étais trompée et lui avais raison. C'était important, très important, l'endroit où elle reposait. Il me serra un instant dans ses bras, puis nous reprîmes le chemin de la maison. Je ne savais pas ce qu'il pensait, mais pour ma part, je sentais que mon cœur avait retrouvé une sorte de paix. Et j'avais la conviction qu'un jour, bientôt, je pourrais de nouveau penser à ma mère sans fondre en larmes.